Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Kiev, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, 3 ans de guerre en Ukraine. Face au rapprochement russo-américain, le président Zelensky espère une paix durable. Le président Macron est quant à lui à la Maison-Blanche ce soir pour tenter de convaincre Donald Trump de conjurer la menace russe. En Allemagne, après sa victoire étriquée aux législatives, le conservateur Friedrich Merz enquête d'alliés pour gouverner. Le futur chancelier propose aux sociaux-démocrates un mariage de raison. En France, après l'attentat de Mulhouse, le gouvernement français met la pression sur Alger. Le Premier ministre Bayrou juge inacceptable que l'Algérie ait refusé 10 fois de reprendre l'assaillant et agite la menace de mesures de rétorsion. Enfin, l'ouverture du procès Le Squarneck, l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité en France. L'ancien chirurgien est accusé de violences sexuelles sur près de 300 jeunes patients. Il a reconnu aujourd'hui avoir commis des actes odieux.
RFI.
Et pour commencer le journal, on part tout de suite au Proche-Orient, où l'inquiétude monte en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne mène toujours de vastes opérations militaires. Après avoir vidé hier de ses habitants 3 camps de réfugiés au nord de la Cisjordanie et interdit leur retour, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés et laissés dans une situation critique, dénonce le CICR, sans abri, sans eau potable, sans soins médicaux. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Jérusalem, Pierre-Olivier. Vous rentrez de Jenin, où la situation est extrêmement difficile.
Oui, nous avons pu, Véronique, entrer cet après-midi dans le camp de Jenin, qui est désormais totalement désert. Les 15 000 personnes qui y vivaient ont été contraintes de fuir pour éviter de se retrouver face à l'armée israélienne. Les seuls habitants que nous avons croisés voulaient récupérer quelques affaires chez eux après être partis à la hâte. Mais beaucoup ont fait demi-tour car des snipers israéliens à l'intérieur du camp sommes ceux qui s'y aventurent de rebrousser chemin. Alors certains arrivent néanmoins à passer entre les mailles du filet et récupérer des vêtements ou un passeport avant de vite repartir. Et parmi ceux qui ont fui, j'ai rencontré Solaïfa. Elle a trouvé refuge chez son frère qui habite à 200 mètres du camp. Et hier soir, elle a vu méduser une colonne de chars israéliens passer sous ses fenêtres. Écoutez.
C'est très dur. Hier, les soldats israéliens ont mis des barbelés tout autour du camp pour ne pas que les gens rentrent. Ils sont passés juste là en char et ils ont jeté des grenades assourdissantes. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils veulent tous nous tuer? Est-ce qu'ils veulent installer une base militaire? Ils ont détruit les routes. Mais il n'y a pas de résistance. Nous sommes des civils. Il n'y a plus de combattants.
Pierre-Olivier. En direct.
Selon les habitants à qui j'ai parlé, les combattants du Hamas et du djihad islamique auraient déjà quitté la ville et le camp depuis plusieurs jours. Mais l'armée israélienne, elle, a l'air de bien décidée à rester. Et la nuit dernière, à l'aide d'énormes bulldozers blindés, l'armée israélienne a littéralement défoncé plusieurs routes principales d'accès à Jenin, rendant très compliquée la circulation sur place.
Merci Pierre. Pierre-Olivier, en direct de Jérusalem. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui est entrée aujourd'hui dans sa 4e année en plein rapprochement russo-américain qui laisse craindre des négociations de paix au détriment de Kiev et des Européens. Alors que le président Macron tente ce soir à la Maison-Blanche de convaincre Donald Trump de ne pas tout céder à la Russie de Poutine. Dans le même temps, plusieurs dirigeants européens ont fait le voyage à Kiev aujourd'hui pour manifester leur soutien au président Zelensky. Les Européens et qui ont également réussi ce soir à l'ONU à mettre les États-Unis en échec sur l'Ukraine, Nicolas Fallès.
Oui, ça s'est passé à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Assemblée générale où les 193 pays membres de l'organisation ont le droit de vote. C'est un texte initié par les États-Unis qui était sur la table dans le contexte que l'on connaît, celui donc d'un revirement de la politique américaine sur l'Ukraine. Mais ce texte préparé par l'administration Trump a été amendé par des pays européens européens qui ont intégré dans la résolution des références à l'invasion russe et à la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Résultat, les États-Unis se sont abstenus sur ce texte qui ne leur correspondait plus. La Russie a voté contre, mais le texte a été adopté. Adopté également une résolution similaire qui avait, elle, été rédigée par l'Ukraine et ses alliés. Cette fois, États-Unis et Russie ont appuyé sur le même bouton, celui du vote contre. Bataille de texte et d'amendements à l'ONU donc, et double revers pour Washington et pour Moscou, avec une deuxième manche dans les heures qui viennent, cette fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y aura une différence de taille puisque les États-Unis comme la Russie sont des membres permanents qu'ils disposent donc d'un droit de veto permettant de torpiller une résolution soumise au vote du Conseil de sécurité.
Nicolas Falaise du service international de RFI. Et ce soir depuis Washington, eh bien le président Macron assure que l'Europe est prête à aller jusqu'à envoyer des troupes pour garantir que la paix est bien respectée en Ukraine. Toujours sur ce front ukrainien, au lendemain de sa victoire aux législatives, le futur chancelier allemand Friedrich Merz se dit lui prêt à s'affranchir de 80 ans de tradition atlantiste en matière de défense, en rendant l'Europe indépendante afin de la préparer au pire scénario vis-à-vis des États-Unis de l'imprévisible Donald Trump. Avant de s'attaquer à ce dossier prioritaire, le futur chancelier allemand a aujourd'hui lancé les grandes manœuvres pour former avec ses rivaux sociaux-démocrates un gouvernement. Bonsoir Julien Chavanne.
Bonsoir.
Envoyé spécial à Berlin, vous avez suivi cette première journée de tractation. Est-ce qu'on se dirige vers une grosse coalition entre la CDU et les SPD ?
Eh bien, c'est clairement ce soir le scénario le plus probable. Le futur chancelier Friedrich Merz le souhaite, il l'a dit publiquement aujourd'hui. À eux deux, la droite conservatrice et le parti social-démocrate ont la majorité des voix au Parlement. Ils gouvernaient déjà ensemble dans la dernière coalition. Sur le papier, c'est simple, mais le SPD, lui, n'est pas prêt à toper aussi vite. Une coalition avec la CDU n'est pas automatique. La balle est dans son camp, a prévenu la direction des sociaux-démocrates. On est en fait dans une partie de poker, là. Chacun joue ses cartes pour obtenir le plus de garanties dans une future alliance. Friedrich Merz s'est donné 2 mois pour y arriver, mais la campagne a laissé des traces et les discussions s'annoncent difficiles.
Et pendant ce temps-là, l'extrême droite, elle, a célébré son score historique, Julien.
L'AfD, désormais deuxième force politique du pays, sa chef Alice Weidel rêve déjà de la première place aux prochaines élections. Elle a reçu les félicitations de ses alliés à l'étranger, le milliardaire Elon Musk, le dirigeant hongrois Viktor Orban. Premier parti dans toutes les régions de l'Est, la formation pro-russe et anti-migrant progresse à l'Ouest. Le futur chancelier Friedrich Merz voit dans le succès de l'AfD un dernier avertissement pour les partis modérés ici en Allemagne.
Julien Chavanne, en direct de Berlin. En France, l'enquête se poursuit dans l'affaire de l'évasion de Mohamed Amra. Après son arrestation samedi en Roumanie, un vaste coup de filet est en cours en Europe pour identifier l'équipe du commando complice de sa fuite. Le 14 mai dernier, son fourgon pénitentiaire avait été attaqué par des personnes cagoulées au péage d'Icarville en Normandie. Après 9 mois de traque, les enquêteurs ont interpellé le fugitif, mais également 25 personnes entre la France, l'Espagne et le Maroc. Les précisions de la procureure de Paris, Laure Becquiot.
Les investigations ont permis d'établir qu'autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée dans sa préparation, mais aussi dans son action. Spécialisation des équipes, repérage, équipe de voleurs, équipe de logisticiens, équipe de guetteurs, l'équipe du commando. L'ensemble de ces protagonistes n'ont pas hésité et ont eu recours à des véhicules faussement immatriculés, à de l'arme lourde, à l'usage de lignes téléphoniques dédiées et à la multiplication de changements de téléphone.
La procureure de Paris, Laure Becquiot, au micro d'Amélie Beaucourt. Toujours en France, le début du procès Le Squarnec, l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugée dans l'Hexagone. L'ex-chirurgien est accusé de violences sexuelles sur près de 300 jeunes patients dans une douzaine d'hôpitaux. Joël Le Squarnec qui a reconnu aujourd'hui sa responsabilité dans la majorité des faits et avoir commis, a-t-il dit, des actes odieux. Un procès qui suscite une très vive émotion devant le tribunal de Vannes aujourd'hui. Une trentaine de manifestants ont ainsi déployé des banderoles accusant le Conseil de l'Ordre des médecins de complicité. Le procès doit durer 4 mois jusqu'au 20 juin prochain.